Chapitre 4. Lettres anonymes. Si Claudius Jacquan s'inquiète de savoir où va presque tous les jours, de 5 à 6, en quittant son bureau, la petite télégraphiste à laquelle il veut donner son nom, qu'il s'embusque sous un porche et guette la sortie du central. On lui promet de l'agrément. Dans l'élégant rez-de-chaussée de la rue Cambon, que son père, le sénateur lyonnais, venait partager avec lui le temps de la session, le fils Jacquan songeait, le front à la vitre de son cabinet de toilette, froissant dans sa main la lettre anonyme. Depuis le bal du ministère et sa rencontre avec Dina, on l'accablait de ses billets à l'écriture louche, aux entêtes de magasins de nouveautés. Mais, sans qu'il sût pourquoi, aucun ne l'avait impressionné comme celui-ci. Il le relisait tout en protestant. « Non, je ne guetterai pas, je ne m'embusquerai pas. Je vais aller tout simplement demander Mademoiselle Eudeline au bureau central et je lui dirai... Mon Dieu, je lui dirai ce qui est qu'après une heure d'égarement, de vertige, la réflexion est venue, anéantissant un rêve de bonheur trop difficile à réaliser. Il faudrait me brouiller avec mon père, subir des assauts dont je ne me sens pas le courage. » Pour son bonheur, pour le mien, je la supplierai de me rendre ma parole. Et voilà. Cette détermination prise, Claudius se sentit plus léger, plus ferme aussi sur ses longues jambes, et se hâta d'achever sa toilette pour sortir. Il oubliait, le malheureux, les décisions innombrables prises depuis 48 heures et toutes abandonnées avec le même transport. Car ce n'était pas un de ces irrésolus à forme tranquille dont la perpétuelle oscillation semble venir de jugements trop bien équilibrés ou d'une diplopie intellectuelle donnant toujours à son esprit au moins deux manières de voir à la fois. L'indécision de ce Lyonnais, au front exalté, aux yeux saillants et fanatiques, au départ de fougue suivi de torpeurs écrasantes, résultait de la mobilité excessive qui faisait l'agitation et le malheur de sa vie. Quand il s'était retrouvé seul après son équipée du Quai d'Orsay, la rupture avec Florence, l'engagement avec Dina, hors de l'envoûtement enchanteur des yeux bleus et des tresses d'or, une peur l'avait pris, un étonnement de son audace. Non, certes, que Mademoiselle Marquès lui tint au cœur par un lien quelconque. Cette belle fille d'un sensualisme instinctif, dont l'existence se passait rue de la Paix, ne sortant de chez un fournisseur que pour entrer chez l'autre ou goûter dans quelque bar mondain, qui n'aimait ni les tableaux ni la musique, ne lisait rien, ne croyait à rien qu'à elle-même, à sa toilette et à sa beauté, cette débordante personne pouvait être une femme pour la montre et la galerie, mais nullement selon son goût. Le malheur, c'est que la rupture le brouillait avec Madame Valfond, si bonne femme, si précieuse amie, et Valfond, qui se vantait d'avoir la rancune implacable, Valfond, dont son père Tony Jacquan attendait sa nomination de ministre de la Marine à la suite du contrat. Comment aurait-il le courage de se retrouver en face de ce père terrible, surtout en face de son rire, de sa blague féroce? Car Tony, comme on l'appelait dans le monde de la fête, ne se fâchait jamais. C'était un vieux beau qui avait fait mourir sa femme de chagrin, noceur et bûcheur enragé, très droit, très vert, la barbe peinte, arrivé à 70 ans sans jamais d'autre maladie que le gros rhume attrapé à une inauguration de statue qu'il retenait à Lyon depuis 15 jours. Claudius, d'une minute à l'autre, l'attendait rue Cambon et, songeant au désappointement de l'arrivée, préférait encore affronter la colère et le mépris de Dina. Très minutieusement renseigné par elle, il se présenta au bureau central vers 11 heures, comme Mademoiselle Eudeline, ayant pris au vestiaire son costume de travail, venait de s'asseoir devant son appareil. Tout ce qu'il avait à lui dire était préparé d'avance, car il se méfiait de son émotion. Mais une chose le rassurait, la tenue de bureau de la petite télégraphiste, si différente de son apparition en bergère Watteau, et qui ne pouvait manquer de lui causer un désenchantement, d'où sa tâche deviendrait plus facile. Ce fut précisément le contraire qui arriva. Quand Dina surgit au palier, dans sa longue blouse noire qui la grandissait, faisait la tête plus petite, le teint plus rose et les lourdes tresses vermeilles d'un or plus éclatant, Claudius ébloui chercha ses idées et ses mots. Jamais rien de pareil à cette grâce de jeunesse, auprès de qui la bergère de l'autre soir semblait une poupée de vitrine. et pendant qu'il était obligé d'appuyer à la rampe le tremblement qui le secouait, elle, de son air le plus tranquille, « J'étais sûre de vous voir aujourd'hui. Je l'avais demandé à Notre-Dame de Fourvière avec tant de ferveur. Quand on m'a appelée, ça ne m'a pas surprise. » Penchée sur la rampe, tout près de lui, sans s'occuper des gens qui montaient, descendaient le large escalier de l'administration, elle lui racontait l'étrange fantaisie de Wilkie Martès et la demande en mariage dont elle était menacée. Sans que Raymond lui en eût encore parlé, Madame Deligne s'était chargée de la prévenir. Bien entendu, mon cher Claudius, je n'ai dit mot de vos projets puisque vous désiriez avertir d'abord votre père. J'ai fait selon vos désirs, bien qu'il m'en coûtât beaucoup. Mais Monsieur Wilkie est pressé d'avoir ma réponse, il faut que je la donne le plus tôt possible. Enfin, l'aimez-vous, ce Wilkie? Le connaissez-vous seulement? Demanda Claudius, dont la blêmeur lyonnaise s'embuait tout à coup d'une teinte jalouse. Un sourire embellit la réponse de Dinah. « Éprise de ce monsieur? Oh, certes non! Mais c'était le meilleur, le plus ancien ami de son frère, un ami dont la démarche, en somme, ne pouvait que la flatter, d'autant que lui ne se cachait pas qu'il voulait venir la demander avec sa mère. Cet homme-là se cache toujours. » Claudius, en parlant, agitait la rampe avec la fureur contenue de sa longue main gantée de clair. « C'est un monstre de perversité, une pourriture d'être, et il s'en vante. Pourquoi vous recherche-t-il? Qu'y a-t-il sous cette demande en mariage? Je le saurai, mais d'avance, je suis sûre de quelque infamie. » Toujours souriante et tranquille, elle demanda « Que faut-il que je réponde? Dites !» Et le savait-il lui-même ce qu'il fallait répondre? La prendre, oui, l'emporter comme elle était là, rouler ce petit bijou de femme fée dans ses tresses d'or et sa blouse noire, se sauver avec comme un voleur, telle était son unique pensée, la très exacte sensation qu'il avait eue la première fois en la voyant et qu'il éprouvait en se retrouvant en face d'elle. Une impulsion irrésistible, un vertige d'âme et de chair. Comment expliquer cela en phrases convenables et dans un escalier et devant du monde, des regards curieux qui vous épiaient en passant? Aussi s'exprima-t-il très mal. Mais les paroles comptent si peu dans la vraie passion. Rien ne fut dit de ce qu'il avait préparé, même il oublia la lettre anonyme. Et, venu pour reprendre sa parole, il engagea plus sérieusement que jamais. Quant à son père, il allait lui télégraphier longuement, et le lendemain, sitôt arrivée la réponse, qui ne changerait rien du reste à ses sentiments, il la porterait à Dinah à la même heure. « Pas ici, impossible !» dit la jeune fille vivement. « Si je vous recevais 2 jours de suite, je me ferais remarquer. On est 6 potiniers dans la maison. Tout à l'heure, le chef de brigade est passé près de nous. Au regard jeté sur vos gants clairs, j'ai compris que tout le bureau serait en émoi. Je pourrais vous attendre à la sortie ? Ce serait plus dangereux encore. Non, la réponse, remettez-la au concierge ici en la recommandant. Il la montera aussitôt aux vestiaires et la mettra à mon nom dans ma besace. » Une violente sonnerie annonça la fin des 10 minutes de repos réglementaire accordées d'heure en heure aux dames télégraphistes. Claudius murmura timidement, tandis qu'une petite main se tendait vers lui, sortie d'une manchette blanche. « Quand nous reverrons-nous ? » Dinah eut l'air de chercher, le temps de lever ses beaux yeux clairs, puis... « Vous savez que les Marc Javel m'ont invité pour lundi. Est-ce que vous ne viendrez pas à leur bal ?» Le front du Lyonnais s'assombrit. « Les Marc Javel, quelle idée ! D'abord, les hommes n'y seraient pas admis. C'était un bal blanc, un bal de demoiselles, pour l'anniversaire de leur nièce. » Mais il la suppliait de n'y pas aller, de ne pas se lier avec ces gens-là. Elle ne se doutait pas de ce qu'étaient ces jeunes personnes de la société, de leurs propos entre elles. Ainsi, cette Nadia de Jarine, dont le père venait de mourir si misérablement, elle s'exprimait comme les palefreniers de leur écurie. Entre elle et la nièce de Marc Javel, c'était une joute de mots épouvantables. « Dinah, je vous en prie, n'allez pas là, je serai trop malheureux. » Sa voix haletée, pressée par l'heure, par l'émotion. Son geste, toujours respectueux, se faisait tendre et câlin, la supplier, l'envelopper à distance. Si vous me le demandez ainsi, c'est que vous croyez en avoir le droit, dit la jeune fille avec une grâce sérieuse. Et frôlant la main de Claudius du bout de ses petits doigts, « Non, je n'irai pas chez Marc Javel. Mais en voilà encore du mystère et des histoires avec maman. » Jusqu'alors, entre cette mère et cette fille, il n'y avait jamais rien eu de secret. Si longtemps séparée de ses garçons, n'ayant près d'elle, chez les parents de province qui les gardaient par charité, que sa petite Dina, déjà très fine et compréhensive, Madame Deligne s'était fait une habitude délicieuse de leurs confidences chuchotées chaque soir sur l'oreiller, dans le grand lit qui les avait suivis du faubourg du Temple à Cherbourg, de Cherbourg jusqu'à l'arrière-magasin de la Lampe Merveilleuse. Mais depuis quelques jours, les causeries se faisaient moins intimes. La maman sentait que sa fille lui cachait quelque chose. Si froide devant des offres de mariage aussi flatteuses, pour demander à réfléchir, quand tout autre eût accepté immédiatement, il fallait que Dina fût engagée de cœur. Allez donc confesser une enfant qui se méfie même de sa mère. Ses frères n'en obtiendraient rien, l'un trop autoritaire, l'autre trop faible. Restait la tantine, la bonne tantine, qui semblait revenue de Londres tout exprès pour tirer d'embarras sa vieille amie. C'est à quoi Madame Adeline songeait sous ses longues anglaises sentimentales en se rendant au corps législatif vers la fin de ce même jour où, sous le coup d'une dernière lettre anonyme, Claudius était porté aux grandes déterminations. Elle comptait trouver Geneviève seule dans le petit appartement dont les fenêtres au bord du toit donnent sur une des cours intérieures du palais Bourbon. Malheureusement, quand elle arriva, le père Isoard était avec sa fille. Assise près de la croisée large ouverte, la tantine regardait mélancoliquement cet horizon de toits et de gouttières se profilant sur un ciel de frimas où criaient des corneilles, tandis que le vieux sténographe allumait la lampe dans la suspension en fredonnant avec une gaieté un peu forcée. Comme si ce faux jour à deux lumières les enfermait dans des pièces différentes, le père et la fille semblaient loin l'un de l'autre et ne se parlaient pas. Aussi, lorsque Madame Deligne apparut, le Marseillais expansif eut un cri de joie familière et méridionale. « Eh, adieu, ma Mandeline !» Quel guignon de n'être pas seule avec elle, se disait la mère en venant s'asseoir à côté de Geneviève. Et tout haut, involontairement, elle traduisit sa pensée. « Est-ce que vous aviez séance aujourd'hui, monsieur Isoard? Comme elle a fini de bonne heure !»« Mais elle n'est pas finie, figurez-vous. Cette terrible affaire d'Éjarine a valu au gouvernement une interpellation qui a tout bousculé. Je suis montée prévenir ma filiette de se mettre à table sans moi, car nos orateurs sont si lambins pour leur correction. » Il fit quelques pas, tordant sa longue barbe, signe chez lui de grande perplexité. Puis, brusquement, en montrant Geneviève, « Maman Adeline, je vous la confie. Je compte sur vous pour me la dériter un peu. Voyons, est-ce que c'est raisonnable ? Depuis son retour de Londres, voilà la figure de mon enfant. Tantôt pour un motif, tantôt pour un autre, selon du moins ce qu'on raconte au vieux père. Aujourd'hui, c'est l'affaire de Jarine, paraît-il. Elle a peur que notre pauvre Casta soit compromise. Pourquoi ? Puisqu'elle n'est pas à Paris. » « Nous n'en savons rien, » dit Geneviève vivement. « Et à coup sûr, Lupniac doit s'y cacher. On le soupçonne d'être un des principaux acteurs du drame. Aussi, quoique ma chère Sophia ne s'occupe plus de politique et que son esprit se soit élargi jusqu'à un rêve de charité, de pitié universelle, on connaît ses fondations d'hôpitaux, de cliniques pour enfants malades. Je la sais tellement ardente, tellement passionnée pour la bravoure de ses camarades révolutionnaires que je tremble à tout moment de la voir arriver. » Madame Adeline s'apitoyait. « En effet, je comprends que cela te tourmente. » Mais le père Isoard cligna ses petits yeux de charbon de terre et soupira vers sa vieille amie. « Il n'y a encore aucune maman pour savoir ce qui se passe dans le cabochon de ses petites filles. » Et sa phrase semblait sous-entendre « Chargez-vous d'interroger la mienne, voulez-vous ?» C'est ainsi qu'elle le comprit, la vieille amie, car à peine le scénographe descendu, seule en train de confidences avec Geneviève, elle murmura « Les mamans n'en savent pas plus long que les autres. La preuve, c'est que je venais te demander… » Elle hésitait, et voici que le teint mat de Geneviève s'empourprait d'une intime appréhension. Raymond, peut-être. Mais, tout à sa pensée, Madame Adeline n'y prit pas garde. « Ma petite Dinah m'inquiète. Je voudrais bien que tu m'aides à la deviner. » Geneviève tressaillit. Que lui importait Dinah ? Ce n'était pas ce nom qu'elle attendait sur les lèvres de la mère. « Ce n'est qu'une enfant, votre fille, et elle vous inquiète, dites-vous ?»« Oh, cruellement !» Alors Madame Deline se mit à raconter l'aventure de sa petite Cendrillon, du moins de ce qu'elle en connaissait, et les craintes qui étaient venues à la pauvre mère en la voyant si dédaigneuse de beau parti. « Elle a peut-être raison de dédaigner, » fit la tantine gravement. « J'ai entendu mon père affirmer bien des fois que ces Valfonds, ces Marquesses, étaient du bien vilain monde. Qui sait si votre petite Dinah n'est pas guidée par un instinct de dignité et d'honnêteté ?» La voix de Geneviève, profonde et tranquille d'ordinaire, vibrait d'une sourde indignation qui allumait ses yeux et ses pommettes. Subitement, elle se reprit un peu confuse. « Après tout, n'est-ce pas un mauvais sentiment qui me pousse à calomnier ces gens-là ? Mais comment voulez-vous que j'hésite entre eux et votre enfant, de si droite et franche nature ? Ainsi, tu ne crois pas que si elle refuse, c'est que son cœur a parlé peut-être pour un autre ?» Madame Deline roucoulait cette simple phrase comme un refrain de vieille romance. « Elle vous l'aurait avoué, madame ?»« Tu penses ? Mais bien sûr !» La mère, transportée de joie, eut un sourire qui voyait le ciel. « Ah, tantine, tantine, si tu savais le bien que tu me fais, c'est si triste de soupçonner ce qu'on aime. Dire que ma petite Dinah, qui, depuis sa naissance, dort à côté de moi, dont l'existence a toujours fait partie de la mienne, je la sens loin maintenant, j'ai peur qu'elle me cache des choses. » « Qui vous a donné le droit d'avoir peur ? » demanda la tantine en se levant pour fermer la persienne, car le soir était venu. En bas, sous les galeries de la cour, on entendait un bruit d'armes et le pas cadencé des factionnaires qu'on relevait. « Qui m'en a donné le droit ?» Madame Deline tirait d'une de ses introuvables poches de robe, si mal commode que les femmes semblent toujours assises dessus, deux ou trois lettres non signées, du genre de celles que Claudius avait reçues le matin. « Êtes-vous bien sûr, demandait une de ces lettres, que Dinah se rende tous les jours à son administration ? Avec la faveur d'un chef de brigade ou d'une surveillante, rien n'est plus facile qu'un faux pointage, au départ comme à l'arrivée du personnel. Ainsi donc ?» Un autre billet faisait remarquer à Madame Adeline que sa fille, plusieurs fois par semaine, revenait du bureau avec une heure ou trois quarts d'heure de retard. Ce serait curieux de savoir où la petite passait ce temps-là. « C'est honteux à dire !» murmurait la pauvre femme, pendant que Geneviève, rapprochée de la lampe, déchiffrait ses infamies. « Ces lettres que tu es la première, la seule à connaître, me gâtent la vie. À présent, quand mon enfant rentre, quand elle sort, mes yeux vont tout de suite à la pendule. Pas un pli de robe, pas une boucle de cheveux que je n'observe. Si elle dort, je guette son sommeil et ses rêves, je me lève pour fouiller ses vêtements. » Et comme jamais je ne trouve rien, au lieu de me rassurer, cela me désole. Je me dis, c'est qu'elle est plus adroite que moi. Tu sais, dans notre bateau à nous, comme disait M. Mauglas, on est pour le sentiment et l'eau sédative. » Elle prit à plein bras la grande belle-fille et, dans une expansion de tendresse égoïste, « Ma chérie, toi qui as tant de raisons, toi que mes enfants ont toujours écouté encore mieux que leur mère, aide-moi à retrouver ma petite Dinah. Je ne sais plus. » Oh, le sourire doucement navré de la tantine, l'accent d'ironie douloureuse jeté sur sa réponse. « C'est vrai que j'ai beaucoup de raisons. J'en ai eu toujours beaucoup, trop même. Un peu de folie aurait sans doute mieux valu pour moi. Enfin, cette fois encore, je serai la raisonnable, et si votre enfant a besoin de conseils, je le donnerai. Seulement, avant tout, » Un geste de dégoût tendait les lettres anonymes à la mère. « Il faut brûler ces vils nids, ne plus en salir vos yeux, votre pensée. Je me figure mon pauvre père recevant des accusations pareilles sur l'honneur de sa fille, mais il en mourrait, il tuerait quelqu'un. » Un joyeux, drôle d'un, un tourbillon de rires jeunes et de boucles blondes. C'était Dina qui venait chercher sa mère et qui leur sautait au cou en s'excusant d'arriver si tard. La faute à qui ? À M. Raymond, qu'elle avait trouvé au magasin, se préparant à dîner dehors et en train de faire une toilette qui encombrait toute la maison. Non, on n'imagine pas la place qu'il faut maintenant à un jeune homme pour s'habiller et les complications d'une parure masculine. Et les embauchoirs pour ne pas déformer les bottines et les tendeurs empêchant les pantalons d'avoir des genoux. Jamais on n'avait entendu parler d'élégance pareille. Mais c'est la tête d'Antonin qu'il fallait voir devant ses raffinements. Les embauchoirs surtout et les jarretelles pour chaussettes de soie lui faisaient ouvrir une paire d'yeux. Bien sûr qu'à son atelier, on ne connaissait pas toutes ses inventions. « Ton frère dîne donc dehors tous les soirs ?» demanda Geneviève, qui se forçait à sourire de tout ce papotage. Un clignement d'yeux de Madame Delin avertit sa fille. « Ne sois pas trop méchante !» Mais la petite, une fois lancée, ne s'arrêtait plus. « Raymond, il n'aime que cela, manger chez des rastaquaires qui lui envoient des estafettes à cheval. Oh, je lui ai bien dit !»« J'en étais sûre !» interrompit la mère. « En te voyant arriver toute rouge, j'ai compris que tu sortais d'une dispute avec ton frère. Tiens, Tantine devrait te gronder, tu n'es pas juste pour Raymond. Quand ton âne ne dîne pas, lui fais-tu les mêmes reproches ?» La petite fut indignée à suffoquer une minute, mais elle se reprit vite. « Des reproches à ton âne, mon Dieu, et pourquoi ? C'est le travail qu'il retient à l'atelier quand il ne dîne pas avec nous ?» Une commande pressée qui ne l'empêchera pas de venir fermer le magasin, ni d'aller surveiller comme ce soir les derniers préparatifs de l'installation du dauphin. Ce nom de dauphin, dont la petite affublait quelquefois le grand frère, fit sourire la tantine. « Et pour quand l'installation ? » demanda-t-elle. « Dimanche prochain, sans doute. Il nous reste encore à finir une paire de rideaux, » répondit Madame Eudeline en regardant sa fille. Dina secoua la tête, l'air revêche. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais oui, tu auras le temps, petit démon, dit Tantine, la prenant gentiment par le cou. Je t'aiderai même s'il le faut. Voyons, demain, si j'allais te prendre à ton bureau, nous rentrerions chez vous ensemble. Dina semblait gênée. C'est que je ne suis jamais sûre de l'heure pour la sortie, avec les travaux supplémentaires. Nous aurions travaillé toute la soirée en faisant une de nos bonnes causettes d'autrefois avant mon départ pour Londres. N'aie pas peur, Tantine, l'occasion s'en retrouvera. Et Dina, prenant la main courte et pleine de son amie, la mit en caresse contre sa joue penchée. Au-dessus d'elle, les deux femmes échangèrent un regard significatif. Quand je te disais... En effet, il doit y avoir quelque chose, mais n'ayez pas peur, je le saurai. Elle me le dira. La nuit qui suivit cette visite au palais Bourbon parut terriblement longue à Dina. Couchée à côté de sa mère, derrière le paravent, le visage à la muraille, obligée de se tenir immobile avec tout ce feu qui lui gonflait les veines, toute la fièvre qui luisait sous ses paupières rabattues, elle se demandait quelle serait la réponse du père Jacquin et si Claudius, dans le cas d'un refus, aurait le courage de tenir sa parole. Ce qui la navrait surtout, c'était le timide appel qu'essayait Madame Eudeline avant de glisser dans le sommeil. « Tu dors, ma Didine, tu ne veux pas causer un peu avec maman ?» Puis un long soupir et le silence. Ah, si elle avait pu se jeter dans les bras de sa mère et tout lui dire. Mais non, Claudius demandait le secret et d'attendre encore. Au matin, sa première pensée en se levant, fut d'une prière fervente à Notre-Dame de Fourvière, dont l'image ne la quittait pas. Pour leur bonheur à tous, car elle associait sa destinée à celle des siens, la journée devait être décisive. Aussi, lorsqu'arrivée au bureau central, elle entra dans le vestiaire où les employés quittent manteau, chapeau, revêtent la longue blouse noire du travail, les mains lui tremblaient en accrochant sa besace à la patère. C'est dans le sac de percale noire qu'elle trouverait la réponse de Claudius, bonne ou mauvaise. Ce fut l'inquiétude de toutes ces heures, heureusement chargées de besogne. Enfiévrée par le manque de sommeil, les joues et le regard en feu, à tout moment, elle tirait la corde du vasistas d'aérage. Mais dehors, la bise soufflait âpre, les giboulées, pluie et grésil, giclaient jusqu'au milieu de la salle, et des cris d'indignation, partis de tous les coins, obligeaient la surveillante à venir fermer la vitre, jusqu'à ce que Dinah l'ouvrit encore, dans un accès d'énervement presque involontaire. « Faut-il qu'elle en ait de la chaleur, cette petite Adeline ?» murmuraient ses voisines d'appareil. Et le chef de brigade, faisant sa ronde à petits pas, les mains derrière le dos, jetait en passant « C'est le grand jeune homme aux gants clairs qui lui aura mis le sang à la peau. » « Il l'a trouvée bien gentille, mademoiselle Dinah, le chef de brigade, et depuis la veille, cette paire de gants clairs le taquinait singulièrement. » Tout le monde en parlait, du reste, à l'administration de l'élégant et mystérieux visiteur. Et pendant les 10 minutes que ces dames passent chaque heure au lavabo, les unes à faire du crochet, d'autres à réparer devant la glace un détail de coiffure ou d'habillement, il n'était question que du grand jeune homme. Qui pouvait-il être? Un cousin? Un fiancé? Vous brûlez, mesdames, disait la petite, s'efforçant de paraître gaie, malgré la tristesse qui lui poignait le cœur, car sa réponse n'arrivait pas. À 3 heures, rien encore. Pourtant, elle ne pouvait désespérer, tellement grande était sa confiance en Notre-Dame de Fourvière. Enfin, au dernier repos avant la sortie, sa main perçut sous l'étoffe le froissement d'une enveloppe. Mais on la guettait tout autour, jusqu'au jaloux brigadier. Elle ne put que glisser la lettre dans sa poche, avec quelle impatience et quel tremblement, et l'y garder jusqu'à la fin de la séance. C'est par une violente sonnerie que s'annonce le changement de service. Des 3 salles de femmes du premier étage, Paris, banlieue, province, toute une volée bruissante s'échappe aussitôt de petites toques, de manteaux, de besaces encombrant le large escalier, où les croisent d'autres toques, sacs et manteaux de remplaçantes, salués au passage par des regards inquisiteurs et des sourires ironiques. Comme toujours, Dinah, plus fine et plus vive, s'était glissée dans la foule et, se trouvant la première dehors, se hâtait de gagner la cité Vanneau, une ruelle alors toute neuve et déserte, alignement de hautes maisons vides et d'écriteaux que la bourrasque agitait. Après quelques regards rapides autour d'elle, elle put enfin tirer la lettre de sa poche et la lire les mains fiévreuses. « Mon père ne m'a pas répondu. Mon père n'est pas venu et ne viendra certainement pas. On m'apprend qu'il est très malade, une congestion pulmonaire, à son âge, presque sans espoir. Je pars à l'instant même, le cœur plein de lui et de vous, et je serai à Lyon avant le jour, à temps, j'espère, pour l'embrasser. Pourrais-je lui dire que je vous aime et que vous êtes ma blanche fiancée devant Dieu ? Hier, on ne lui a pas lu la longue dépêche où je lui disais mon amour pour vous et l'engagement juré sur la sainte image de Fourvière. Cette dépêche lui aurait fait mal, je n'ai donc pas à regretter qu'il l'ignore. Croyez-vous que, dans cette pensée anéantie, sombrée, l'ambition seule survit encore ? En délirant, il ne parle que des Valfonds et du ministère de la Marine. Son dernier souffle sera cet espoir. Vous comprendrez que je ne le lui enlève pas et que je vous supplie de prier pour lui comme pour celui qui signe. Votre fidèle et passionné, Claudius Jacquin. La lettre lue, relue, serrée sous le gant, au creux de la petite main tiède, Dinah songea avec ferveur. « Oh oui, je prierai pour ton père, pauvre ami !» Et d'un talon vif et sonore, la voilette sur les yeux, le sac noir au bras, elle prenait la direction de Saint-Sulpice, l'église où elle entrait le plus volontiers. Cette habitude, qui lui venait de province et des longues journées oisives à côté de Madame Adeline, d'entrer à l'église pour une courte prière, un vœu mental, Dinah la gardait à Paris. Et c'était une douceur ineffable, après l'agitation et le brouhaha du bureau, le train des rues, de se bercer d'une prière enfantine finissant en rêverie dans le silence et le repos des hautes nefs, dans la demi-ombre des chapelles, délicieuse retraite pour une imagination de jeune fille, et telle qu'il n'en pouvait être de meilleure pour s'abriter, prendre tout son essor, sans risquer de froisser ni de casser ses ailes. De ses longues stations à Saint-Sulpice, 2 ou 3 fois par semaine, Dinah ne parlait jamais à la maison par une pudeur, une gêne délicate. À l'administration non plus. Elle aurait trop craint les rires, les plaisanteries de ses collègues. On avait remarqué cependant qu'après le bureau, elle partait toujours la première, sans attendre personne pour l'accompagner, et si prompte qu'à peine dehors, on ne la voyait plus. De là à supposer toutes les escapades, il s'en fallait de l'épaisseur d'une lettre anonyme. Et depuis quelques jours, chez Claudius Jacquin, comme chez Madame Eudeline, à tous les courriers du soir et du matin, abondaient ce genre de correspondances menteuses et lâches. Qu'il s'embusque sous un porche et guette la sortie du bureau, on lui promet de l'agrément. Combien de fois le pauvre amoureux s'était-il promis de fuir l'embuscade éleguée, les trouvant trop indignes de leur miraculeux amour. Et maintenant, le voilà trottant sur les talons de Dinah, la suivante à distance le long des maisons de la rue de Grenelle. Il lui avait donc menti? Le voyage à Lyon, la maladie de son père? Non, tout était absolument vrai. Mais plus fort que l'angoisse filiale, le soupçon jaloux l'avait repris tantôt en venant porter sa réponse. L'idée que Dinah sortirait dans une heure, que quelqu'un peut-être l'attendrait, enfin l'affreux poison absorbé depuis 2 jours, lui mettait les veines en feu. Il avait encore 2 heures avant le train de Lyon. Au moins partirait-il avec un renseignement, un indice, et ne s'en irait pas rongé, torturé par l'horrible doute. La Croix-Rouge, la rue du Vieux-Colombier. Le pied vif, la tête droite sous son encas de soie bleue, ruisselant tour à tour de soleil ou de giboulée, la petite allait devant elle, marchait vers un but défini, qui n'était pas la rentrée à la maison. 2 ou 3 fois, les grandes enjambées du Lyonnais l'amenaient involontairement, presque sur ses talons. Alors il traversait la rue ou s'arrêtait devant un des magasins d'objets de piété, chapelets, images saintes, dont ce quartier est rempli. Tout à coup, en se retournant vers le milieu de la rue Saint-Sulpice, il a beau regarder à droite, à gauche, devant, derrière lui, il ne retrouve plus la vive et mince silhouette qui, tout à l'heure, se hâtait de l'autre côté de la rue, sur les trottoirs longeant les vieilles murailles noires de l'église. L'idée lui vient, voyant du monde entrer, sortir par les petites portes, qu'elle a pu disparaître par là, cette étrange petite catholique qui, en pleine fête mondaine, lui parlait de sa dévotion à Notre-Dame de Fourvière, dont elle portait au cou les médailles. Pour s'en assurer, il franchit 4 ou 5 marches, poussa la porte volante, et son émotion fut si grande alors, si extraordinaire, que pendant quelques minutes, il oublia le motif qu'il avait porté là. Depuis le fond du cœur, criblé d'ors et de feu comme une tiare asiatique, la grande nef du milieu était baignée d'une blancheur astrale, liliale, montant des mousselines et des tulles alignées, voiles blancs, robes blanches, brassards et cannetilles de premier communion, et des aubes et des surplis du grand séminaire, assis par file de 200 jeunes prêtres, à la suite des enfants groupés. Et tout cela faisait une houle, une coulée mouvante de blancheur irisée par la lumière qui tombait des hauts vitraux, bercée par la musique des orgues et le cristal des voix enfantines, dans l'odeur de l'encens et des lilas blancs en grappe sur le maître-autel. Pendant cette journée, il y avait eu, dès l'aurore, première communion. Dans l'après-midi, confirmation et renouvellement des vœux, ainsi que la prit Claudius d'une vieille mère grand à la parole exaltée, aux petits yeux sans cils, brillants et ruisselants de joie. Les bas-côtés de l'église étaient pleins d'apparitions de ce genre, tendres créatures féminines, plus ou moins jeunes, mais aux mêmes attitudes infléchies et priantes, aux mêmes corps vibrants, tendus, prêts à ouvrir leurs ailes pour un nouvel essor, ou bien à languir et là, jetés sur les prie-dieux comme à la fin d'une journée brisante d'effusion, d'exaltation. En arrivant de cette place Saint-Sulpice, un des carrefours de la rive gauche, retentissant des sifflets et des coups de timbre des omnibus, bruyant des parties de bouchons dans le ruisseau, où circulent des chansons, des rires obscènes, en sortant de cette nuit tombante qu'attristait la bourrasque qui déversait la moitié du grand bassin sur le terre-plein de bitume comme une image de toute la lie, de toute la boue de la ville en écume autour du temple, le contraste était grand avec cette nef, immense vaisseau aux voiles blanches, n'ayant pour se défendre que des fleurs et des cantiques. Pendant 1 minute, le Lyonnais éprouva ce choc d'idées, ce tourbillon d'impressions contraires, dont la remise en place lui fut calmante et délicieuse. Les vers du poète chantèrent dans sa mémoire. « Voilà donc quel vengeur s'arme pour ta querelle, des femmes, des enfants, Ô justice éternelle! L'orgue et les voix enfantines continuent leur doux bercement, là où le blanche son roulis mystérieux. Soudain, Claudius aperçoit, parmi d'autres silhouettes prosternées, une petite femme qu'il reconnaît à la lourde natte vermeille, tordue sur les blancheurs de la nuque penchée. Dina, c'est Dina! Et de la voir abîmée dans la prière et dans les larmes, alors seulement il se souvient qu'en partant, il lui a demandé de prier pour son père, tout près de mourir. C'est là qu'elle venait si droit, si vite, pendant qu'il la suivait de loin, que ses hideux soupçons haletaient honteusement derrière elle. Ah, il peut partir maintenant! L'image de la jeune fille, lavée de toute crainte, étincelante et pure, il l'emporte sur son cœur, contre sa chair, comme une précieuse amulette, et rien ne pourra l'en séparer.